et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Cyril!
Salut Darina!
Comment tu vas?
Ça va super, et toi?
Ouais, nickel! En forme pour la rentrée et en forme pour l'inconnu qui est devant nous. Voilà. Du coup, je suis trop contente de te recevoir sur Amcamgram, sachant que toi, tu es un guest, puisque tu n'es pas account manager, si je ne me trompe pas.
Bah, de fait, je le suis un peu, mais effectivement, c'est pas mon, c'est pas mon cœur de métier, ouais, ou en tout cas ma formation.
Toi, du coup, tu es le fondateur de Comin.io. C'est l'outil SaaS qui révolutionne l'onboarding et l'offboarding collaborateur, créé en septembre 2019. Du coup, aujourd'hui, toi et moi, on va débattre sur le sujet de l'offboarding. Toi, tu as l'expertise côté collaborateur et moi, j'aimerais qu'on regarde le parallèle côté client. Puisque on sait que le churn ou attrition en français, c'est un KPI qui est hyper important, surtout chez les entreprises B2B SaaS, puisque on sait quelles sont les conséquences désastreuses de la perte d'un client, notamment en termes de revenus récurrents. Du coup, pour nous, les account managers, c'est un sujet qui est vraiment clé. Et je t'avoue qu'avant de t'inviter, j'avais cherché effectivement à entrer en contact avec des account managers pour brainstormer sur le sujet. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt tabou, en fait, ce sujet de l'offboarding. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses.
Ouais, bah c'est je ne peux que te rejoindre. Mais c'est notamment pour ça que nous, on a choisi d'aller sur ce sujet-là. C'est côté expérience collaborateur, c'est un sujet aujourd'hui qui est assez peu mature, l'offboarding. Alors, l'offboarding, dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça correspond plus à une période de temps, mais globalement, quand tu penses à la façon dont sont gérées la fin de parcours des collaborateurs dans les entreprises, effectivement, aujourd'hui, c'est il y a rien. Le niveau moyen est très bas. Pour tout dire, nous, sur l'étude qu'on a faite, il y a moins d'une entreprise sur 10 qui a un process, même une checklist, hein, qui permettent de systématiser tout un ensemble d'étapes à partir du moment où le départ de quelqu'un est acté dans l'entreprise. Donc ouais, c'est sûr, c'est complètement tabou. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est un sujet de culture. J'en parlais avec un média cette semaine qui me disait qu'ils essayaient d'interroger un max d'entrepreneurs français super successful pour qu'ils puissent partager leurs galères, les échecs qu'ils ont commis. En fait, ils me disent c'est silence radio de la part de tous parce qu'en fait, on n'aime pas en parler de ce genre de sujet-là. On préfère parler des boîtes qu'on développe et qui cartonnent, mais pas de celles qui n'ont pas marché. Donc, je pense que c'est un sujet assez fondamental dans notre culture.
Mais carrément, et puis même côté client, je t'avoue que moi aussi, j'essaie de regarder un peu ce qui existe en termes de littérature sur Internet. Je n'ai rien trouvé. C'était que offboarding collaborateur et encore, comme tu dis, c'est assez maigre pour l'instant.
Si tu en as, si tu as de la littérature sur l'offboarding collaborateur, je suis preneur parce que j'en connais pas beaucoup et sincèrement, je serais ravi d'ailleurs qu'il y ait d'autres entreprises qui s'y mettent pour qu'on donne un peu plus de légitimité à ce marché, ou pas tellement de légitimité, mais de visibilité à ce marché-là.
Pour moi, en fait, l'offboarding client, c'est le fait d'assumer le départ d'un client de notre portefeuille. Et du coup, l'enjeu, ça va être de savoir comment faire pour accompagner ce client vers la sortie, de lui dérouler en quelque sorte le tapis rouge pour qu'il garde un bon souvenir de son expérience chez nous et potentiellement qu'il dispose de toutes les facilités pour pouvoir revenir dans un futur plus ou moins proche. Donc, j'ai hâte que tu nous donnes, toi, ta checklist et tes bonnes pratiques en termes d'offboarding collaborateur. Mais avant ça, peux-tu te présenter, Cyril ?
Yes, bien sûr. Alors, je m'appelle Cyril Paéret, j'ai 36 ans, je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai travaillé dans le conseil pendant 7 ans. Pendant ces 7 années, j'ai eu une expérience entrepreneuriale. C'est un side project. On a développé une marketplace avec deux associés, enfin deux copains. Notre objectif, c'était de donner de la visibilité aux marques d'entrepreneurs français qui n'avaient pas forcément les moyens de développer leur visibilité avec de la pub, avec de l'achat de mots-clés, par exemple. Et donc, on a voulu agréger sur une plateforme toutes ces marques d'entrepreneurs français qui avaient un positionnement assez identique. Ça a été un four total. Ça n'a pas du tout marché. Gros problème, grosse galère logistique. On ne maîtrisait pas la logistique parce qu'on faisait du dropshipping. Mais ça m'a clairement picousé. Ça m'a donné très envie d'entreprendre. Le résultat net, c'est qu'après mes 7 années de conseil et cette première expérience d'entrepreneuriat, j'ai rejoint un groupe industriel pour un projet d'intrapreneuriat. Donc, j'ai entrepris en interne sur une techno d'impression 3D dans le secteur de la santé. Je me suis éclaté pendant 3 ans. C'était absolument génial. J'ai appris un max avec tout un tas de personnes qui étaient vraiment, vraiment top. Et j'ai quitté donc cette entreprise qui s'appelle Scientifit en juillet 2019 pour me lancer dans le projet Comin. Alors j'aurai probablement l'occasion de revenir dessus, mais parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs constats justement quand j'étais consultant ou justement dans ma vie d'opérationnel qu'on ne gérait pas bien la fin de parcours des collaborateurs dans les boîtes et qu'on perdait énormément de valeur, de richesse, de productivité à chaque départ.
Eh ben, hâte d'avoir ta liste là-dessus. Mais avant, ma question rituelle, Cyril, quel est ton plat préféré ? C'est pour mes stats perso.
je vais peut-être te paraître un peu chiant. Sincèrement, si jamais tu devais me préparer un plat de folie, ce serait probablement une salade. Je suis assez healthy, je fais plein de sport et je mange assez léger. Et effectivement, ce serait probablement une salade pimpée, hein, avec de la viande, avec de l'œuf, enfin, je sais pas, avec plein d'herbes. Mais globalement, ouais, ça pourrait être un plat avec beaucoup de verdure et quelques arômes un peu pimpés, ouais.
Bon, une salade créative pour bien démarrer l'automne et préparer l'hiver, quoi.
Yes.
Bon, c'est bien, c'est parfait parce que ça me change des pizzas 4 fromages que j'ai souvent sur le podcast en mode summer body. Je sais pas, les gens avaient faim. Donc, non, ça me fait plaisir que tu défendes les valeurs de la healthy food. Alors, c'est parti. Tout d'abord, Cyril, est-ce que tu peux me donner ta définition de l'offboarding ?
Je pense qu'il y a deux sujets dans l'offboarding. À la fois, c'est une période, c'est-à-dire que c'est la période dans les quelques semaines ou mois qui précède le départ de quelqu'un à partir du moment où ce départ est acté. On sait qu'on ne va pas revenir dessus et que cette personne va nous quitter. Alors parfois, cette personne va nous quitter parce qu'elle l'a choisi, c'est le cas d'une démission. Parfois, c'est prévu. Ça peut être un stage, un CDD, un contrat de free, par exemple. Donc il y a à la fois une notion de timing et la deuxième chose, c'est l'ensemble des tâches qui doivent être mises en œuvre par l'entreprise de façon à accompagner le départ. Et j'entends par accompagner le départ, pas uniquement l'aspect un peu qualitatif de montrer au collaborateur sortant qu'on, tu vois, lui montrer du care et lui montrer de qu'on fait attention à lui ou le valoriser, c'est aussi comment est-ce qu'on essaye de réduire le risque induit par la perte de quelqu'un qui a tout un tas de connaissances, qui a tout un tas de valeurs ajoutées et qui va quitter l'entreprise. Donc, ces tâches, elles vont être mises en œuvre par les managers RH ou par les managers opérationnels, voire même aussi par le collaborateur lui-même ou elle-même. Mais donc, c'est à la fois une notion de timing, mais aussi un ensemble de tâches à mettre en œuvre avant le départ du collaborateur.
Ok, très clair. Donc là, dans les minutes qui vont suivre, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu as déjà préparé une checklist de 10 actions très concrètes pour accompagner l'offboarding d'un collaborateur. Et moi, je vais rebondir en fait à chacune de ces étapes pour voir comment est-ce qu'on peut transposer ces astuces côté client, sachant que, pour donner un peu de contexte, c'est vrai que les entreprises, et surtout B2B SaaS, au début, bien entendu, on a mis l'accent sur le biz dev, donc c'est-à-dire acquérir des nouveaux clients. En phase 2, elles se sont rendues compte que ces clients, il fallait peut-être les accompagner, faire en sorte qu'elles renouvellent leur abonnement, que ces entreprises soient fidèles finalement sur le long terme. Et la troisième phase, on se rend compte que les clients qui étaient là au début, il y en a certains qui commencent à partir, à churner, donc ce que je disais. Et c'est pour ça que l'offboarding client devient un sujet stratégique. Donc, je pense qu'il y a peu encore de maturité dans ce domaine-là. Donc, c'est intéressant, Cyril, qu'on soit pionnier un peu dans cette réflexion.
Yes, avec grand plaisir. Je pense qu'effectivement, il y a des parallèles qui sont évidents entre l'offboarding collaborateur et l'offboarding de client.
Alors, on commence tout de suite avec la phase 1.
Yes, alors juste, je reviens un peu sur ce que tu as dit. En fait, nous, on a 10 phases. Si tu veux, on a développé cette checklist. C'est 10 phases pour un peu plus de 35 items, enfin 35 tâches à mettre en œuvre dans le cadre du départ d'un collaborateur. Donc, c'est un peu plus étoffé que 10 tâches seulement. Et c'est quelque chose qu'on a fait en allant voir 50 boîtes, 50 managers, en leur posant la question de savoir qu'est-ce qu'ils mettaient en œuvre dans le cadre du départ de quelqu'un. Et ensuite, on a recroisé toutes ces infos de façon à en faire une synthèse aussi digestible que possible et aussi actionnable que possible pour les entreprises qui nous demandent de leur envoyer. On la partage gratuitement et on est ravis de leur ouvrir les chakras sur les enjeux de l'offboarding, quoi. Oui, la phase numéro 1, si tu veux, c'est un peu une phase d'introspection. Je sais pas si le terme est pas un peu fort, mais c'est celle qu'on appelle le fait d'accepter le départ. Quand quelqu'un te dit qu'il va quitter l'entreprise, alors à nouveau, là, on est plutôt dans le contexte de quelqu'un qui va démissionner, par exemple, mais ou alors quand on se rend compte du fait que le départ de quelqu'un va avoir lieu, même si jamais on savait qu'il aurait lieu parce qu'il y a une échéance à son contrat. Il faut se poser la question de comment est-ce qu'on se met dans l'action, quoi? Parce que souvent, la première réflexion des gens ou la première action, c'est on a un peu les bras tombants et on se dit, aïe, pour pas dire merde, comment est-ce qu'on va faire? Parce que Darina, en fait, elle est là depuis un moment, elle maîtrise certains bien, super bien tout un segment de nos clients qui sont un petit peu particuliers. Comment est-ce qu'on va faire sans elle? Et donc là, c'est un peu une phase où, en fait, uniquement le manager, voire les quelques managers qui sont dans l'écosystème autour duquel gravite le collaborateur ou la collaboratrice, qui puissent échanger ensemble sur déjà partager l'info, tout court. Se dire Darina ou si elle va quitter la boîte, ça il faut le communiquer en interne entre managers avant même de le communiquer à le reste de l'entreprise et notamment à l'équipe que va quitter le collaborateur. Mais ensuite du coup aussi vraiment accepter ce départ, quoi, parce qu'il faut pas ensuite que tout le toute la phase de l'offboarding qui va suivre soit un peu polluée par du ressentiment, par le fait de justement pas avoir accepté ce départ-là. Donc ça, c'est hyper important et c'est une première phase qui ne concerne que les managers. Ça, c'est vraiment nous, dans la formation qu'on fait de nos clients, c'est hyper important. On ne parle pas au reste de l'équipe pour le moment, quoi.
Bah, côté client, effectivement, on va avoir aussi en cas de souhait de résiliation de son contrat. Encore une fois, là, je parle dans le cadre d'un abonnement, par exemple, un SaaS. L'account manager va accuser réception de la résiliation de son client, par exemple, par mail, puisque c'est important d'avoir un écrit. Je vous confirme que j'ai reçu votre courrier recommandé et vous respectez, mettons, le préavis de départ de 2 mois comme exigé dans les CGV. Et d'ailleurs, je remarque un parallèle avec le mot préavis, parce que lorsque une personne démissionne ou en tout cas part d'une entreprise, on parle aussi de ce terme de préavis, souvent de 3 mois pour un contrat cadre. Et là, pour les clients, c'est pareil. Dans les CGV, il y a un délai en fait de prévenance à respecter.
Ouais, c'est clair. Il y a toute une notion un peu administrative, préparer un peu le départ. C'est quoi l'horizon de temps dans lequel ça doit s'inscrire? Tu vois, c'est vrai pour le départ d'un collaborateur, c'est évidemment vrai pour le départ d'un client avec ses CGV. Bref, donc c'est une phase qui est pas anodine en fait, vraiment d'accepter le départ. Et à nouveau, c'est presque un peu introspectif comme travail. La phase numéro 2, nous, c'est le fait de communiquer le départ. Et là-dessus, 100% des boîtes nous l'ont dit, si ce n'est en premier lieu, c'est le fait de communiquer le départ à l'ensemble de l'équipe parce qu'on ne se rend pas compte, on ne mesure pas à quel point est-ce que le bruit de couloir est destructeur dans l'équipe qui va rester et qui va voir l'un de ses membres quitter la boîte. Ce qui est vrai, c'est avant de rejoindre un poste, quand on parle de l'onboarding, on rejoint une équipe, quoi. On rejoint une entreprise avec des valeurs, avec une culture, etc. Et ben, quand on quitte une boîte, on quitte aussi une entreprise. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je pense que la génération Z, notamment, avant de rejoindre un poste, rejoint une équipe, une ambiance, des valeurs. C'est beaucoup moins vrai pour des gens qui ont commencé à bosser il y a 20 ans, il y a 15 ans, voire peut-être même il y a 10 ans. Et donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va communiquer le départ? Est-ce que c'est le manager direct qui va le communiquer à l'équipe dans le cadre d'un pot de départ? Enfin, dans le cadre, non pas du pot de départ, pardon, mais dans le cadre d'un pot d'équipe, d'un petit déj, d'un autre événement. Est-ce que ça va être le collaborateur lui-même qui va le communiquer? Et la dernière question, et qui est finalement la plus importante, c'est à quel moment est-ce qu'on le communique? Et ça, c'est fondamental. Enfin, la meilleure réponse, c'est ASAP. Alors, il ne faut pas le faire en freestyle, justement, sans avoir prévu qui parlerait, comment est-ce qu'on l'explique, etc. The sooner the better, quoi.
Côté client, effectivement, la communication, bon, elle va être beaucoup plus succincte, bien évidemment, puisque là, on reste dans le cadre contractuel d'une relation B2B. Après, effectivement, nous, comment est-ce qu'en interne, les account managers, on va communiquer sur cette information, bah, malheureuse, mais auprès de nos managers? Ça va être dans le CRM qu'on utilise. Donc, nous, par exemple, on utilise Pipedrive, tu sais, avec différentes colonnes, différents stages. Et en fin de compte, lorsqu'on va être averti de la résiliation future d'un client, on va basculer sa carte dans la colonne qui s'appelle Low Chance to Renew. Comme ça, on va se préparer, même nous, au niveau du forecast, hein, de la prévision de chiffre d'affaires et de l'atterrissage de la fin du mois ou du trimestre ou de l'année, la perte potentielle de ce client. Donc nous, en fait, on va le communiquer plus niveau chiffre, quoi. C'est beaucoup moins humain, mais effectivement, ça rejoint cette communication et se faire savoir pour anticiper au mieux la suite.
Ouais. Bah, c'est sûr que nous, enfin, côté entreprise, pas côté business, côté offboarding employé, l'enjeu de cette phase de communiquer, c'est vraiment un enjeu de management, un enjeu de culture d'entreprise, que les gens comprennent que il y a pas de drame, en fait, il y a pas de non-dit. On assume le fait que quelqu'un ait choisi de faire quelque chose, enfin d'aller travailler ailleurs, si jamais c'est le cas d'une démission, mais on en parle assez librement. Et ça, c'est absolument fondamental pour notamment montrer à ceux qui restent dans l'entreprise qu'il n'y a pas de drame, en fait. Finalement, c'est normal, quoi. Dans une boîte, il y a des départs, il y a des arrivées. C'est complètement normal.
Mais pour autant, il faut quand même être transparent et très clair, à la fois avec le collaborateur ou le client et à la fois avec les collègues. Ouais. Et le reste de l'entreprise.
Exactement. La phase 3, alors elle est hyper importante pour moi, parce que c'est notamment un des constats que je faisais avant de justement réfléchir au fait de lancer le projet commun, c'est le fait d'expliciter les attentes. En fait, il faut sauver la continuité du business. Le problème, quand quelqu'un dit qu'il ou elle va quitter l'entreprise, le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de littérature sur le sujet de l'offboarding. Il n'y a pas tout un tas de bonnes pratiques, de use case qui sont partagées par tout un tas de personnes qui disent « moi, je me comporte comme ci, moi, je me comporte comme ça ». Et le résultat net, c'est que souvent, on gère ça beaucoup par l'émotion. Et comme on a déjà eu l'occasion de le dire avant, souvent, le problème, c'est qu'un collaborateur quitte un manager ou quitte des managers ou quitte bref, quelque chose qui est plus lié avec un environnement personnel et pas forcément l'entreprise. Le résultat net souvent, c'est que en fait le manager, à partir du moment où le départ est certain, et ben en fait il va plus s'asseoir avec son collaborateur pour essayer de bien préparer sa sortie. En fait, il va s'asseoir avec la personne qui vont rester dans la boîte parce qu'en fait il a encore la capacité de les faire grandir celle-là. Et donc le fait d'expliciter les attentes, ça permet d'agir avec beaucoup plus de pragmatisme. Évidemment, il faut être tout à fait lucide sur le fait que le niveau d'engagement va être moins important, c'est normal. On ne peut pas exiger avoir le même niveau d'exigence en termes de volume de travail, en termes d'investissement, en termes d'engagement à quelqu'un qui a déjà, d'une certaine façon, un peu le pied ailleurs. Mais c'est hyper important pour à la fois montrer aux collaborateurs qu'en fait, il n'est pas en vacances, cette phase de préavis, ce n'est pas non plus une phase de vacances, le valoriser, c'est-à-dire lui dire « mais en fait, il y a plein de choses que tu sais très bien et j'ai besoin que tu les fasses jusqu'à tel moment », ça, c'est absolument fondamental. Et à nouveau, l'enjeu pour le manager à ce moment-là, c'est vraiment limiter le trou d'air, quoi. Quand quelqu'un quitte une boîte dans son équipe, en fait, il y a un vrai problème de continuité de business puisque potentiellement la chaise va être inoccupée pendant un temps, le temps de retrouver un collaborateur, un remplaçant. Mais ensuite, il va falloir que le remplaçant monte en compétences. Et donc, du coup, si jamais en plus on commence à laisser, entre guillemets, la productivité décroître avant même que le collaborateur sortant ait quitté l'entreprise, là, vraiment, on se met un boulet au pied et on est sûr de perdre quelques points de productivité qui coûtent très cher, quoi. Donc, c'est un point qui est vraiment, vraiment fondamental.
Et je rejoins ton point sur le pragmatisme, puisque si je prends, par exemple, un client qui est engagée jusqu'au mois de mars 2021 et que là, on est en octobre, je ne vais pas laisser filer ce client en me disant « Bon, bah écoute, j'ai perdu X chiffre d'affaires, next. » Non, je vais vraiment aussi… Alors là, ce n'est pas forcément expliciter mes attentes, mais plutôt lui montrer que lui, son service, il est encore fonctionnel jusqu'à une certaine date dans le futur et que d'ici là, je vais continuer à l'accompagner et donc comprendre ses enjeux. Qu'est-ce que je peux faire jusqu'à la fin de votre abonnement, jusqu'à votre prochaine date anniversaire? Comment est-ce que je peux faire pour optimiser finalement le service que vous continuez de payer?
Bien sûr, bah, de toute façon, le service, il lui est dû. De fait, le service, il lui est dû puisque... il va payer jusqu'au dernier jour de son préavis, quoi. Donc, à la fois, d'une certaine façon, le service lui est dû, mais en plus, en fait, il faut quand même voir les choses de façon réaliste. La personne va peut-être partir. Il n'est pas exclu qu'elle revienne aujourd'hui, typiquement, en ce qui concerne l'offboarding des collaborateurs. Il y a un sujet sur l'offboarding qui revient très souvent, qui est comment est-ce que tu animes les alumni, les ex-collaborateurs, avec notamment dans l'idée de pouvoir continuer à les nourrir d'infos de façon à ce qu'ils puissent se poser la question de savoir s'ils ne reviendraient pas travailler dans l'entreprise après avoir essayé de bosser chez un concurrent ou dans une autre boîte parce qu'ils pensaient que en fait, l'herbe serait plus verte. Aujourd'hui, il y a un maximum d'entreprises qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent favoriser le recrutement boomerang parce qu'en fait, ça leur coûte beaucoup moins cher. Déjà, la personne va postuler d'elle-même, donc ce ne sera pas de la chasse. De deux, surtout, le vrai gain, il est sur le fait que la personne connaît les codes, connaît l'entreprise, a déjà tout un tas est déjà onboardée sur tout un tas de sujets, donc en fait, elle va être quasi opérationnelle immédiatement. Il n'est pas exclu dans une relation commerciale que la personne qui te quitte, peut-être pour de bonnes raisons à un moment, elle finisse par reconsommer ton service un peu plus tard parce qu'en fait, elle se rend compte que ce qu'elle pensait être un problème, ben en fait, elle s'est rendue compte que ce problème, il est chez tous les acteurs du métier, que en fait, elle se rend compte qu'elle s'est fait pipoter par un fournisseur qui a essayé de lui vendre le truc et qui en fait lui a raconté des histoires sur la qualité de son service. Bref, donc je pense que bien accompagner jusqu'à la fin, c'est notamment ouvrir la porte pour une possible recollaboration à l'avenir, quoi.
Et c'est d'autant plus vrai dans les boîtes SaaS parce qu'on parle plutôt d'un service, d'un usage, d'une utilisation. Souvent, le client, alors comme tu disais, une des raisons du départ, c'est est-ce que je veux faire des économies ou est-ce que je vais être payé plus si je pars d'un collaborateur. Mais c'est aussi, je pars de votre service parce que je ne l'utilise pas. Et nous, le fait comme ça d'être alerté côté account manager et de faire tout son maximum pour accompagner le client dans des bonnes conditions jusqu'à la fin, potentiellement, on va redoubler d'efforts pour qu'il utilise le service et une fois sur trois minimum, le client va se dire bon bah finalement PS, ouais. Je ne résilie plus.
Ouais, c'est clair.
Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être sur la phase 4?
Ouais, phase 4. Bon, alors ça c'est le cœur de métier de commune, ou en tout cas c'est l'axe qu'on a choisi de développer parce que c'est là qu'on pense qu'il y a le plus de c'est là où il y a un ROI en fait. C'est là où l'offboarding, le départ, le turnover a un coût énorme, c'est sur le fait d'organiser la passation, le transfert de connaissances. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as tout un tas d'études qui t'expliquent que le remplacement d'un collaborateur va te coûter un peu moins de 30 000 euros ou 17 000 euros. Après, ça dépend de la seniorité de la personne, ça dépend de tout un tas de paramètres. Mais concrètement, la façon dont toutes ces études en parlent, c'est qu'ils disent en fait le remplacement de quelqu'un, ça suppose une baisse de productivité. Cette baisse de productivité, elle s'explique par le fait que la personne qui va prendre la suite d'un off-boardie, comme on l'appelle dans notre jargon, donc un nouvel arrivant qui remplace quelqu'un, il va lui falloir en moyenne 6 mois pour être à peu près opérationnel. 6 mois, c'est juste énorme. 28 semaines, c'est juste absolument énorme. Et ça, la meilleure façon d'avoir un retour sur investissement si jamais on utilise une solution comme celle de Comin, c'est en fait juste t'assurer que il n'y a aucune connaissance qui soit perdue quand quelqu'un quitte une boîte. Et il faut être tout à fait lucide, les départs feront toujours partie de la vie de l'entreprise. Les arrivées aussi, mais les départs aussi. Et même, je vais vous dire un secret, c'est qu'en fait, il y en aura encore plus, puisque la génération Z ou les générations les plus récentes sont beaucoup plus volatiles que ne l'étaient les générations précédentes. Donc en fait, le rythme du turnover va encore s'intensifier. Donc ouais, le fait d'organiser la passation de connaissances, c'est absolument fondamental pour éviter que les connaissances ou les bonnes pratiques Cyril ou de Darina, elle quitte pas la boîte en même temps que Cyril ou Darina. Et la réponse qui consiste à dire oui, mais en fait tout est dans le CRM, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, là où tu permets à quelqu'un de monter en compétence rapidement, c'est quand il bénéficie de tips qui sont plus de l'expérience, qui sont pas juste ton segment de client, c'est tel segment de taille de boîte, c'est telle industrie, et on a essayé de vendre, et voilà pourquoi est-ce que tel prospect n'a pas acheté. En fait, ce qui permet à quelqu'un d'être plus efficace, plus rapidement à son poste, c'est pas tous les détails qui concernent chacun des prospects, c'est plus quelles sont les erreurs dans la vente qu'ont commis un collaborateur qui avait par exemple des cold calls qui étaient mal rodés, c'est-à-dire il merdait systématiquement les 5 premières secondes de son call, systématiquement la personne lui disait qu'elle n'avait pas le temps. Donc ça, c'est vraiment super important. On se rend compte que c'est finalement le vrai coût du turnover, c'est un coût qui est caché, c'est la perte des connaissances, quoi.
Alors, côté client, il n'y a pas ce côté itératif comme peuvent l'avoir les collaborateurs.
Ouais.
Néanmoins, on va avoir cette logique de croissance d'entreprise, bien évidemment, d'une année sur l'autre, year over year, on veut faire une croissance de temps. Sauf que là, si on parle d'offboarding, on parle aussi un peu de panier percé, c'est-à-dire que j'ai un client qui part d'un côté, bon, bah, il va falloir que je redouble d'efforts niveau bizdev, niveau acquisition. Donc là aussi, ça peut représenter ce fameux manque à gagner dont tu parlais tout à l'heure. Et je te rejoins aussi par rapport au côté volatile, alors que ce soit des collaborateurs pour aller voir dans une autre boîte si l'herbe est plus verte ailleurs, ou pour un professionnel, même dans le B2B, il y a de plus en plus de solutions qui existent, que la concurrence est monstre. Donc, je pense que la relation avec la compte manager, elle est clé, ainsi que la prise en compte et l'accompagnement vers la sortie. On pourrait croire que c'est un sujet anodin, mais en fait, je pense que le client, il est très sensible.
Enfin, je suis entièrement d'accord et je pense que tu as raison, le parallèle, il est très probablement vrai sur la volatilité aujourd'hui des clients et notamment dans le SaaS, en B2B. Aujourd'hui, c'est tellement facile de couper une souscription, ou bien de se connecter à un nouvel outil où en fait tu es onboardé online avec des tutos, avec t'as même pas besoin de parler à qui que ce soit, qu'effectivement je pense que tu as une volatilité qui est énorme et justement je pense que le l'offboarding est une très bonne raison pour faire revenir quelqu'un.
Du coup, ça te permet aussi d'enchaîner sur la phase 5 puisque yes. Tu parlais de dialogue.
Ouais, la phase 5, c'est le fait d'organiser l'entretien de départ. Alors nous, on recommande à nos clients d'organiser plutôt deux entretiens de départ. Un qui est plutôt formel et en général, on conseille aux entreprises de ne pas faire animer cet entretien de départ par le manager lui-même. Faut pas qu'il soit deux parce que sinon, on a l'impression que c'est un peloton d'exécution. Mais on recommande de le faire par un autre manager, quelqu'un qui est un peu un tiers de confiance, quelqu'un à qui le collaborateur sortant va peut-être être un peu plus transparent sur les réelles raisons de son départ. On le disait tout à l'heure, parfois, très souvent, le départ, il se fait pour quitter un manager ou pour quitter une entreprise, mais pas tellement quitter un poste ou rejoindre quelque chose de plus sexy. Là, il y a un enjeu à cette étape-là qui est de comprendre pourquoi est-ce que la personne part. Et ça, c'est un enjeu d'entreprise, à la fois pour alimenter un plan de rétention des talents, juste pour s'améliorer. C'est absolument fondamental. Donc ça, c'est le premier entretien qu'on suggère de faire, mettons, dans les quelques jours, quelques semaines qui suivent la notification du départ ou le fait que ce départ est effectivement acté. Et on parle souvent d'un deuxième entretien qui est un peu moins formel, donc qui est plus informel, qui là, pour le coup, peut être animé par le manager lui-même et qui vise plus, si tu veux, à maintenir le lien entre le collaborateur et son futur ex-manager. Nous, on est absolument convaincus aujourd'hui que la réputation est reine sur le marché du travail. Le premier réflexe de quelqu'un qui veut embaucher quelqu'un, c'est d'aller demander des références. Ou si ce n'est pas son premier, c'est peut-être le deuxième, parce que le premier, c'est peut-être d'aller checker le profil LinkedIn de la personne, du candidat. Et donc, du coup, si jamais tu vas avoir des recos de compétences d'un manager qui concerne un candidat sur LinkedIn, ou si jamais tu as... une bonne relation sur la fin avec ton manager, tu peux être sûr que ça va te ça va te revenir au centuple après, le jour où tu as besoin d'une référence, où tu as besoin, où quelqu'un, un futur employeur, peut avoir besoin de valider que tu es fiable, que justement, tu as été correct jusqu'à la fin de ton parcours, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est le fait de réaliser cet entretien de départ. Je crois que c'est fondamental aussi, j'imagine, dans la relation commerciale, tu vois. Vraiment comprendre pourquoi est-ce que le client choisit de mettre un terme au service que tu lui proposes et pourquoi est-ce qu'il choisit d'aller ailleurs.
Alors oui, mais nous, ça, ce serait dans un monde merveilleux parce que l'accès à un client et organiser un rendez-vous téléphonique pour parler des raisons de son départ, voilà, c'est pas toujours évident. Même si je lui mets un rendez-vous dans son calendrier, il va pas forcément se rendre disponible ni vouloir, parce que même si moi, dans ma posture d'account manager, je sais pertinemment que je veux accompagner mon client jusqu'à la sortie, lui, potentiellement, dans sa tête, il a résilié mon service et même s'il doit payer jusqu'à tel mois, pour lui, c'est déjà du passé. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est moins évident. Et c'est pour ça que, justement, je rebondis sur tes bonnes pratiques en termes d'entretien ou de moins de discussions formelles et informelles. Parce qu'en fait, même si moi, je n'ai pas réussi à avoir mon client au téléphone pour comprendre les raisons de son départ, je vais pouvoir peut-être lui faire suivre un email avec peut-être un questionnaire, mettons Typeform, sur lequel il va pouvoir remplir à son rythme et par écrit aussi les véritables pain points qu'il peut rencontrer. Et si je vais un peu plus loin, on peut aussi mener une analyse de ses retours de client churn pour pouvoir ensuite mener des plans d'action pour anticiper ces risques.
Ouais. Ensuite, j'enchaîne sur la phase 6. Celle-là, elle est fondamentale et elle est aussi liée. Il y a un enjeu qui est un enjeu de culture ou un enjeu de management. C'est le fait d'acter ou de célébrer le départ. Aujourd'hui, quand tu abordes l'offboarding, tu vois, c'est souvent ce que me disaient d'ailleurs les boîtes que je suis allé interroger au tout début de Comin pour essayer de comprendre la façon dont ils géraient l'offboarding. Dans 9 cas sur 10, le seul truc qui revenait, c'était on organise un pot de départ. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg, quoi. Ça, c'est fondamental et l'enjeu qu'il y a derrière le fait de célébrer le départ, c'est de montrer à ceux qui ne vont pas partir et ceux qui vont rester, et donc ceux de l'équipe qui sont quittés par le collaborateur qui a choisi de partir travailler ailleurs, leur montrer qu'en fait c'est pas grave. Alors évidemment l'idée n'est pas de leur montrer que c'est tellement pas grave qu'en fait ils devraient y aller aussi. C'est plutôt de leur dire en fait il y a pas de drame, quoi. Il y a pas de drame, ça va pas venir détruire la culture d'entreprise, ça va pas détruire la cohésion qu'il y a au sein de l'équipe, et en fait rien n'exclut que potentiellement on retravaille ensemble. Si jamais ils passent du côté client ou du côté fournisseur ou du côté, tu vois, il y a des entreprises qui le font très 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 bien ça, notamment des grands cabinets de conseil qui aident les collaborateurs, tu sais, dans l'outplacement, où en fait, à partir du moment où le départ de quelqu'un, où en fait on sait qu'il a d'une certaine façon atteint un plafond de verre par exemple et qu'il va plus progresser dans l'entreprise, on va l'aider à trouver un autre job et cette fois on va l'aider à passer côté client pour qu'ensuite il devienne prescripteur du service du cabinet. Ça c'est bon, c'est un niveau de maturité, c'est
encore... Là vous êtes dans le futur, hein, par rapport à nous.
Non mais c'est encore autre chose, bien entendu, mais l'enjeu d'acter célébrer le départ, c'est vraiment maintenir ceux qui restent dans l'entreprise à bord et leur montrer qu'il n'y a pas de drame et que la cohésion d'équipe ne va pas en pâtir, que les valeurs de l'entreprise ne vont pas en pâtir, et si jamais je tire le trait, ça peut peut-être même être d'ailleurs tu vois, ça peut refléter une des valeurs de l'entreprise.
Ouais, complètement. Bah après, côté client, bon, je t'avoue qu'il n'y a aucune célébration.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, on n'est pas dans ce côté culture d'entreprise. Néanmoins, bien sûr qu'on va acter le départ par un mail. Alors, on peut l'envoyer à J-14, J-7 et jour J, avoir comme ça une trame, en disant très clairement au client, bah voilà, à partir de telle date, vous n'aurez plus accès à telle et telle fonctionnalité. Par contre, je reprends ce que tu disais, rien n'exclut qu'on ne retravaillera pas ensemble. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Et nous, dans ce sens, on pourrait dire, par exemple, au client, écoutez, nous, on va archiver vos données pendant 3 mois. Donc, si vous souhaitez revenir d'ici les 3 prochains mois, on n'aura pas besoin de repartir à zéro. On aura déjà vos paramétrages de prêt. Voilà, ça pourrait se traduire de cette façon.
Yes.
Après, la phase 7 et 8, peut-être qu'elles
ouais,
sont moins
exactement. Ouais, on peut, je pense qu'on peut les recouper. Enfin, la phase 7, c'est récupérer le matériel. Et là, à nouveau, c'est un poste de coût, en fait, finalement, qui est très important parce que auprès de la cinquantaine de boîtes qu'on est allé interroger récemment sur la checklist d'offboarding, en fait, il y a quasiment 100% des boîtes qui oublient du matos. Alors, en général, c'est pas un ordi ou c'est pas un Mac. Mais ça peut être des petits éléments qui, en fait, mis bout à bout sur le volume total de départ, peut représenter un poste important. Et ensuite, c'est le pur aspect réglementaire, admin, qui est de remettre tous les aspects légaux, enfin, donner tous les documents légaux au collaborateur avant son départ, qu'il s'agisse de son solde de tout compte, de son attestation de travail, etc. Ça, c'est évidemment fondamental. Et d'ailleurs, sur la checklist, quand on est allé voir les boîtes, justement, il y a un vrai sujet de transparence sur les documents admin ou légaux. Concrètement, quand on est collaborateur, on n'a aucune idée de ce que sont les documents dont on a besoin au jour de son départ. Donc, si jamais la boîte peut être plus transparente là-dessus dès le début, je pense que ça peut réduire pas mal d'inquiétudes chez le collaborateur.
Bah nous, sur les phases 7 et 8, il n'y a rien à dire, parce que si on parle de SaaS, on coupe purement et simplement les accès. Ouais. Et si le client a besoin d'avoir accès aux factures, on les lui envoie. Voilà, point barre.
Yes. La phase 9, elle est hyper importante, mais fondamentale. C'est le fait d'assurer la sécurité des données de l'entreprise. Comment est-ce que tu t'assures que la personne qui ne travaille plus chez toi n'a plus accès au contenu, qu'il s'agisse typiquement du CRM? Alors, encore pire quand le collaborateur part travailler chez un concurrent. Évidemment, là, en général, le préavis n'est pas très long. En fait, le plus tôt il part, le mieux c'est. Ouais, il y a un enjeu de sécurité des données qui est absolument fondamental. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose sur la partie commerciale, mais tu l'évoquais tout à l'heure. En fait, effectivement, dans le SaaS, tu coupes, quoi.
Ouais, dans le SaaS, tu coupes, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Après, des fois, tu as des clauses où le client peut repartir avec un export de, mettons, son vivier de candidats, sa base de données clients, etc.
Yes. Mais ça, c'est... Ouais, ça, c'est... Bon, c'est parce que la donnée, aujourd'hui, c'est clé. D'un point de vue collaborateur, c'est vraiment fondamental, quoi. Il ne faut pas que l'entreprise puisse être à risque. Et ça, je crois que même les meilleurs font encore des boulettes là-dessus. La dernière phase.
Dernière phase.
Yes. Garder le lien. En fait, on l'a évoqué en filigrane, évidemment, plusieurs fois. C'est le fait que rien n'exclut que quelqu'un avec qui tu as bossé et qui a choisi d'aller travailler ailleurs parce qu'il pensait que l'herbe était plus verte, ou parce qu'il gagnait un peu plus d'argent, ou parce que il appréciait pas le manager avec qui il a bossé pendant 6 mois. Enfin bref, je sais pas. Les raisons sont diverses. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont pas bonnes. Rien n'exclut que la personne revienne travailler chez toi demain. Et ça, en fait, c'est marrant, mais c'est un sujet sur lequel on est de plus en plus interrogé, notamment par des grands groupes, qui sont d'ailleurs pas nos clients. Nos clients, c'est plutôt des PME et des ETI. Y a beaucoup de boîtes qui nous posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour animer le lien avec les alumni, avec les anciens collaborateurs. On a évoqué aussi le sujet du recrutement boomerang. Aujourd'hui, c'est hyper, hyper recherché par les DRH, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Sur des postes à forts enjeux, on économise les frais de chasse. Et sur tous les postes, on intègre quelqu'un qui connaît déjà la maison, qui connaît ses codes, qui connaît le business, et qui est opérationnel quasiment dès le jour 1, quoi. Donc, il y a un enjeu de... un peu comme tu nurtures les prospects en leur poussant de l'info, en leur poussant du contenu, de façon à leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à pouvoir utiliser ton service. En fait, il faut nourrir aussi même tes alumni, de façon à leur montrer comment est-ce qu'évolue la boîte, à leur donner envie de continuer à promouvoir la boîte, parce que ça peut encore être des super ambassadeurs, même si jamais ils reviennent jamais travailler chez toi. Quelqu'un qui part en bon terme de chez toi, c'est quelqu'un qui en parlera en termes positifs. Donc, c'est des points de marque employeur qui peuvent coûter super cher, et qui peuvent être gagnés, justement, en adressant bien l'offboarding. Donc, ouais, il y a un enjeu fondamental sur le fait de garder le lien. Donc, qu'il s'agisse du lien entre le manager et son collaborateur, mais plus largement aussi entre l'entreprise et le collaborateur.
Effectivement, et côté client, tu vois, on pourrait très bien se dire qu'on va reprendre un peu... les mails des clients qui ont churné sur les, mettons, X derniers mois, mettons, le dernier trimestre, pour essayer de les relancer. On peut aussi leur demander tout simplement des nouvelles. Donc ça, effectivement, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que lorsque vient la date anniversaire ou du moins la date de résiliation du contrat, bon bah tout est clair côté contractuel et côté fonctionnalité. Et on peut très bien aussi leur dire, bah, continuez à nous suivre, à suivre notre actualité, même si vous n'êtes plus client chez nous, ce que tu disais aussi. Voilà, continuez de voir nos nouveautés, nos produits, nos événements, nos articles, etc. Donc, cette façon de nurturer aussi, comme tu disais, les clients qui ont churné. Et puis, tu vois, mine de rien, même si on n'a pas de lien contractuel, on n'est plus client-fournisseur, etc., bah, y a aussi l'aspect de l'humain derrière tout ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'account manager, ça m'arrive régulièrement, encore plus avec une cible RH qui est très connectée, d'ajouter mes interlocuteurs, par exemple, sur LinkedIn. Et même si ce ne sont plus mes clients, peut-être qu'ils vont aussi voir l'actualité que moi, je relaye de mon entreprise. Et comme ça, d'une certaine façon, ils vont aussi suivre l'actualité de la boîte. Et puis, potentiellement, ça pourrait être un argument de plus pour garder cette petite idée en tête. Tiens, ils sont toujours là et je pourrais revenir. Donc ça, on va dire, c'est plutôt sur le court moyen terme. Et sur le long terme, rien n'empêche aussi de reprendre contact, mettons, à plus 6 mois, juste pour reprendre des nouvelles et susciter l'intérêt. Est-ce qu'on vous manque, quoi, finalement ? Et juste, je terminerai avec, même pour aller plus loin, est-ce que côté business, on va mettre un incentive pour inciter les clients à revenir chez nous ? Tu vois, côté collaborateur, je ne sais pas, ça pourrait être un salaire plus gros ou des responsabilités, je ne sais pas, tu me diras. Mais côté client, tu vois, ça pourrait être un coût d'abonnement plus faible ou quelques mois offerts, quelque chose comme ça.
Ouais, alors moi, je suis toujours un peu mal à l'aise intellectuellement avec ça, le fait de, tu vois, de donner, par exemple, un welcome bonus à quelqu'un qui reviendrait.
Ah ouais.
Non, mais je trouve que ce serait pas la bonne raison, si tu veux. Que tu choisisses de le faire sans en parler aux collaborateurs, à la rigueur, why not? Enfin, tu vois, dans l'absolu. Mais il faut pas que ce soit ça qui vienne driver le choix du collaborateur.
Il ne faut pas que ça devienne un jeu, que ça se sache.
Exactement. Parce qu'en plus, effectivement, le risque, c'est qu'après, ça fasse jurisprudence et que ça se sache et que les gens se comportent bizarrement ou autrement parce qu'ils ont connaissance de ça. Mais après, pourquoi, enfin, tu vois, dans une relation commerciale, pourquoi pas, sincèrement, offrir l'accès à ta plateforme pendant un mois ou 2 mois ou je ne sais pas quoi. Pourquoi pas? Mais parce que là, tu es dans une relation qui est éminemment moins émotionnelle que quand tu es dans une relation d'employeur-employé, quoi. C'est vachement plus froid comme relation, tu vois, une relation commerciale.
Bien.
Même si, évidemment, il y a, je pense que justement, l'émotion importe vachement, ou la relation est super importante. Donc voilà, mais on l'a dit tout à l'heure et je le répète, je pense que le parallèle entre la volatilité des collaborateurs qui est hallucinante aujourd'hui, il faut savoir qu'aux US, dans les 10 boîtes les 10 plus grosses boîtes tech aux US, la durée moyenne de quelqu'un dans une boîte, c'est 1 an et demi.
C'est rien.
C'est juste déliant. Nous, sur l'interview, l'étude qu'on a faite auprès de 50 boîtes, on est à 2 ans et demi. C'est quand même vraiment pas grand-chose. 2 ans et demi, ça passe comme un claquement de doigts. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure, je pense que le changer de fournisseur, changer de prestataire de service, ça se fait aujourd'hui hyper facilement aussi. Donc, il y a un vrai parallèle de volatilité. Donc, maintenir le lien ou tenir informé, tu vois, que tu les mets dans une newsletter particulière, tes anciens clients. De la même façon que tu les mets dans une newsletter particulière, tes alumni. Mais je pense que ça peut produire de super bons résultats que d'animer d'anciens clients ou bien des alumni.
Complètement. L'image est ce qui reste, hein, finalement.
Ouais.
Ça change pas.
Ouais, non, mais c'est marrant, mais c'est un peu le même sujet que le SAV, quoi. Le SAV, pendant très longtemps, c'était le SAV des entreprises, c'était le pire métier, quoi. C'est-à-dire que tu te fais taper dessus tout le temps. Et en fait, depuis quelques années, maintenant, on se rend compte que c'est pas le SAV qui va faire. C'est jamais le SAV qui va te permettre de trouver des nouveaux clients. En revanche, le SAV permet de récupérer des clients. Un bon SAV, c'est un enjeu énorme pour faire revenir des clients chez soi au sein d'une marque, tu vois. C'est un peu la même chose, quoi. Un bon offboarding, c'est une très bonne raison pour quelqu'un qui est parti pour des raisons qui ne sont pas des divergences fondamentales avec un manager, avec l'entreprise, de revenir. C'est une très, très bonne raison pour quelqu'un.
Et côté account management, je vois de plus en plus fleurir. Alors, ce n'est pas encore mature, mais j'ai vu quelques boîtes qui le font, qui ont segmenté en fait l'équipe account management ou CSM comme on l'appelle, avec des retention managers. Donc là, alors on n'est pas dans du SAV B2C, mais on est, tu vois, sur un peu l'appel de la dernière chance, et c'est des gens qui sont hyper diplomates.
Ouais.
À creuser.
Yes.
Trop bien. Bah écoute, ça m'a fait hyper plaisir, Cyril, de passer ce temps avec toi. Merci beaucoup pour toutes tes clés.
Avec plaisir.
Et je te pose la question rituelle de la mort, de la fin, si tu as encore une force.
Yes. Après, c'est
quel titre de film, livre ou encore de chanson décrirait le mieux, selon toi, l'offboarding et pourquoi ?
C'est un peu bidon, hein, mais je te dirais ce n'est qu'un. Tu sais, ce n'est qu'un. Parce qu'en fait. Exactement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut, quand on est dans une relation employeur-employé, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un collaborateur, on pourrait le traiter à peu près comme on traite un freelance. Et je pense que c'est le sens du contrat de travail, d'ailleurs, c'est qu'il soit de moins en moins régi par le lien de subordination qui est constitutif légalement, juridiquement, du contrat de travail. Qu'en fait, on parle moins du lien de subordination, mais juste, on parle de la culture du résultat. Et donc, les gens, je pense, vont consommer du travail d'une certaine façon, de la même façon que des freelances cherchent des missions régulièrement et ils essayent de bien finir leur mission pour revendre à leurs clients par la suite. Je pense que quelqu'un qui bosse dans une entreprise aujourd'hui, il doit être drivé par le résultat, non pas par l'obligation de moyens. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement désuet. Fliquer les gens sur le temps qu'ils passent au bureau, ça ne peut plus marcher. De toute façon, ça ne marche plus puisqu'on ne les voit plus au bureau. Et donc, effectivement, pouvoir se dire l'offboarding ou en tout cas gérer la fin de contrat, c'est une très bonne raison de dire non pas adieu à quelqu'un, mais peut-être au revoir, quoi. Et le au revoir, il voudra dire que la personne reviendra bosser, ou bien il voudra dire que la personne travaillera avec nous parce qu'elle sera passée du côté client, ou elle sera passée du côté prestataire, ou elle pourra nous mettre en contact avec quelqu'un avec qui on travaillera, avec qui on n'aurait pas travaillé si jamais on n'avait pas eu cette entremise, quoi. Donc, chanson un peu bidon, mais je pense que ça, c'est assez facile à comprendre, quoi.
Carrément. Bah écoute, un grand merci Cyril encore une fois d'être venu en guest.
Yes.
Et j'ai envie de te dire, ce n'est qu'un au revoir.
Exactement, avec grand plaisir Darina.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.